Rudyard Kipling, Simple conte des collines, La chance de sa vie. Alors il dressa en pile les têtes des vaincus. Il en entassa 30 000 l'une sur l'autre, tout cela pour plaire à la jeune infidèle. Au pays où roulent les eaux de l'Oxus, et ainsi parla le farouche Atula Khan, c'est l'amour qui a fait de cette chose un homme. Histoire d'Oata. Laissez derrière vous les réceptions, les invitations à Government House, les bals des corporations. Éloignez-vous le plus possible de toutes les choses et de toutes les personnes qui vous furent familières au cours d'une existence respectable. Tôt ou tard, vous franchirez la ligne après laquelle il est impossible de trouver la moindre trace de sang blanc, tandis que monte la marée du sang noir. Il serait plus facile d'entrer en conversation à brûle-pourpoint avec une duchesse de création récente que de causer avec les habitants de la zone frontière sans enfreindre quelques-unes de leurs conventions ou heurter un de leurs sentiments. Dans cette zone, le noir et le blanc ne se mêlent jamais que d'étranges façons. Le sang blanc peut se manifester par des accès d'orgueil farouche, puéril, caricature de l'orgueil de race. Le sang noir, quant à lui, engendre des crises d'humilité plus farouches encore. Il ressuscite les usages à demi païens et amène d'étranges, d'inexplicables impulsions criminelles. Le jour viendra où ces gens-là, entendez-moi bien, il s'agit de gens très inférieurs à la classe d'où sortit D'Orozio, les mules de Byron, donneront naissance à un écrivain, à un poète. Alors seulement, nous saurons comment ils vivent et ce qu'ils ressentent. En attendant, aucune des histoires qu'on racontera sur eux ne pourra être absolument exacte, qu'il s'agisse des faits eux-mêmes ou des conclusions qu'on en tire. Miss Vedzis franchit cette ligne frontière pour s'occuper des enfants d'une dame jusqu'à l'arrivée d'une nurse attitrée. La dame disait que Miss Vedzis était une nourrice incapable, malpropre, négligente. Il ne lui vint jamais à l'esprit que Miss Vedzis avait une existence à elle, des affaires qui lui donnaient du souci et qui comptaient pour elle plus que tout au monde. Bien peu de maîtresses de maison admettent ce genre de raisonnement. Miss Vedzis était noire comme du cirage et en jugeait d'après notre idéal affreusement laide. Elle portait des robes de cotonnade imprimées, des souliers à bout carré, et quand les enfants lui faisaient perdre patience, elle les injuriait dans la langue de la frontière, mélange d'anglais, de portugais et de mots indigènes. Elle n'était point attrayante, mais avait son amour-propre et tenait à ce qu'on l'appelât Miss Vedzis. Tous les dimanches, elle mettait ses plus beaux habits pour aller voir sa maman, qui passait la majeure partie de sa vie sur un grand fauteuil de rotin, enveloppé d'une robe de tussor crasseuse dans une vaste maison, sorte de clapier, où s'entassaient les Vedzis, les Pereira, les Ribeiros, les Lisboa, les Consalves, sans compter les populations mouvantes d'inactifs. Détritus du marché de la journée, odeurs d'ail mêlées d'encens, habits traînant à terre, jupons pendus à des cordes en guise de rideaux, vieilles bouteilles, crucifix d'étain, immortels desséchés, chiens errants, statuettes en plâtre de la Vierge et chapeaux percés venaient s'ajouter au décor. Miss Vedzis recevait 20 roupies par mois pour faire office de nurse. Et elle se chamaillait chaque semaine avec sa maman à propos du pourcentage qu'il fallait retenir sur les frais du ménage. Une fois la dispute finie, Michele de Cruz franchissait tant bien que mal le petit mur en terre de la clôture et faisait la cour à Miss Vedzis à la façon de la frontière, c'est-à-dire en respectant un très complexe cérémonial. Michele était une pauvre créature maladive et très noire, mais il avait son amour-propre. Pour rien au monde, il ne voulut être surpris à fumer un hookah, et il regardait les autochtones avec le dédain condescendant que peut seul donner une proportion de 7/8 de sang noir dans les veines. La famille Ivetzis avait aussi de l'amour-propre. Elle faisait remonter son origine à un poseur de rails, ancêtre mythique qui avait travaillé au pont sur la rivière Sun, alors que les chemins de fer étaient d'introduction nouvelle dans l'Inde. Les Vetzis faisaient grand cas de leur origine anglaise. Michele était aiguilleur sur la voie ferrée à 35 roupies par mois. La situation d'employé du gouvernement rendait Madame Vetzis indulgente sur les lacunes de son arbre généalogique. Il y avait une légende compromettante. Dom Anna, le tailleur, l'avait rapporté de Ponani, d'après laquelle un juif noir de Cochin avait épousé une femme de la famille de Cruz. En revanche, c'était un secret connu de tout le monde qu'un oncle de Madame de Cruz remplissait à cette époque même des fonctions absolument domestiques qui touchaient de près à la cuisine dans un club de l'Inde méridionale. Il envoyait tous les mois à Madame de Cruz 7 roupies, 8 anas. Mais elle n'en sentait pas moins cruellement combien l'honneur de sa famille avait à en souffrir. Cependant, au bout de quelques dimanches, Madame Vetzis parvint à surmonter la répugnance que lui inspiraient ces zones d'ombre dont l'ascendance de Michele. Elle voulut bien lui accorder la main de sa fille, à la condition qu'il aurait au moins 50 roupies par mois pour débuter dans la vie conjugale. Cette extraordinaire prudence devait être un dernier et suprême effet du sang qu'avait apporté dans la famille le mystérieux poseur de rails du Yorkshire. Car de l'autre côté de la frontière, les gens mettent leur orgueil à se marier quand ils veulent, et non point quand ils peuvent. Les perspectives de carrière de Michele étaient ce qu'elles étaient. Madame Vetzis eût tout aussi bien pu lui demander de décrocher la lune. Mais il était profondément épris de Miss Vetzis, ce qui lui donna de la persévérance. Il accompagna Miss Vetzis à la messe un dimanche, et, la messe terminée, comme il s'en revenait dans un nuage de chaude et fade poussière, en la tenant par la main, il jura, par plusieurs saints dont les noms ne vous intéresseraient guère, qu'il n'oublierait jamais Miss Vetzis. Aussitôt, elle lui jura sur son honneur et tous les saints qu'elle-même ne l'oublierait jamais, utilisant une formule assez curieuse, in nomine sanctissimae, quel que fût le nom de cette sainte-là, etc., concluant par un baiser sur le front, un sur la joue gauche et un troisième sur la bouche. La semaine suivante, Michele fut muté et Miss Vetzis laissa tomber quelques larmes sur le châssis de la portière du compartiment, juste avant le départ du train. Si vous regardez attentivement une carte du télégraphe en Inde, vous verrez une longue ligne qui longe la côte depuis Bakergung jusqu'à Madras. Michele avait été envoyé à Tibasu, petite station sans importance, située aux environs du premier tiers de cette ligne, pour expédier les dépêches entre Berhampur et Chikakola, tout en rêvant à Miss Vetzis et aux chances qu'il avait de gagner 50 roupies par mois grâce à son travail de bureau. Pour lui tenir compagnie, il avait le bruit des vagues de la baie du Bengale et un employé bengali, rien de plus. Il envoyait à Miss Vetzis des lettres folles où il dissimulait de petites croix par-dessous la patte de l'enveloppe. Après 3 semaines à Tibasu, la chance de sa vie se présenta. Qu'on ne l'oublie pas, à moins d'avoir constamment sous les yeux les signes extérieurs et visibles de notre autorité, un indigène est aussi capable qu'un enfant de comprendre ce qu'est l'autorité et à quel danger il s'expose en s'y dérobant. Tibasu était un petit poste oublié où habitent quelques mahométans de l'Orissa. Ces gens-là, n'ayant point entendu parler du sahib collecteur depuis quelque temps, méprisant de tout leur cœur le juge auxiliaire hindou, fomentèrent une petite émeute dans le genre Moharram. Les hindous, cependant, faisant une sortie, leur fendirent le crâne. Puis, trouvant que l'anarchie avait du bon, hindous et musulmans créèrent ensemble une sorte de Donnybrook, sans savoir où ils voulaient en venir, pour le plaisir de voir jusqu'où cela irait. Ils se démolirent leurs boutiques les uns les autres et assouvirent leur rancune personnelle de manière à ne laisser aucun arriéré. C'était une méchante petite émeute, mais pas assez importante pour être mentionnée dans la presse. Michele était dans son bureau, occupé à écrire, quand il entendit ce bruit qu'on n'oublie jamais, le « haïa » d'une foule en colère.
Quand ce bruit baisse d'environ 3 tons et devient un hut sourd ou bourdonnant, celui qui l'entend n'a rien de mieux à faire que de prendre la fuite s'il se trouve seul.
L'inspecteur de police indigène entra en courant et dit à Michele que toute la ville était en ébullition et se préparait à saccager la station télégraphique.
L'employé bengali se coiffa de son bonnet et sortit tranquillement par la fenêtre, pendant que l'inspecteur, terrifié mais obéissant à l'antique instinct de race, qui reconnaît une goutte de sang blanc, si diluée soit-elle, demandait « Quels sont les ordres, sahib ?» Au mot de « sahib », Michele prit son parti. Malgré l'horrible frayeur qu'il éprouvait, il se sentit, lui, l'homme qui avait dans sa généalogie le juif de Cochin et l'oncle domestique. Il se sentit le seul homme qui représenta dans la localité l'autorité anglaise. Il songea à Miss Vettis, aux 50 roupies, et assuma la responsabilité de la situation. Il y avait à Tibatu 7 policiers indigènes qui se partageaient 4 fusils à canon lisse, tous détraqués. Les 7 hommes étaient gris de peur, mais pouvaient encore être dirigés. Michele lâcha la clé de l'appareil télégraphique et sortit à la tête de son armée pour affronter la rébellion. Au moment où la meute hurlante apparaissait au coin de la rue, il mit en joue et fit feu. Instinctivement, les hommes qui le suivaient en firent autant. La foule, composée des plus incurables froussards, poussa force cris et se sauva, laissant par terre un mort et un mourant. Michele suait de peur, mais n'en montrait rien. Il descendit en ville jusqu'à la maison où le juge auxiliaire s'était barricadé. Les rues étaient désertes. Tibatsu était plus effrayé encore que Michele, car l'émeute avait été enrayée au bon moment. Michele revint au bureau du télégraphe et envoya une dépêche à Chikakola pour demander de l'aide. La réponse n'était pas arrivée qu'il recevait une députation des anciens venue lui dire que, d'après le juge auxiliaire, sa façon d'agir était absolument anticonstitutionnelle. Ils essayèrent de l'intimider, mais dans la poitrine de Michele battait un grand cœur d'homme blanc à cause de son amour pour Miss Vettis, la bonne d'enfant, et parce qu'il avait goûté pour la première fois à la responsabilité et au succès. Ces deux ingrédients forment une boisson enivrante qui a fait la ruine de plus d'hommes que le whisky. Michele répondit que le juge auxiliaire pouvait dire ce qu'il voulait, mais qu'en attendant l'arrivée de l'aide collecteur, l'opérateur du télégraphe incarnait à Tibatsu le gouvernement de l'Inde et que les anciens de Tibatsu seraient tenus pour responsables si les troubles se poursuivaient. Alors, ils courbèrent la tête, dirent quelque chose comme « Ayez pitié de nous », puis repartirent, profondément pénétrés de crainte, en s'accusant mutuellement d'avoir excité le désordre. Aux premières heures du jour, après avoir patrouillé toute la nuit dans les rues avec ses 7 policiers, Michele se rendit sur la route, fusil en main, à la rencontre de l'aide collecteur qui était venu à cheval pour calmer Tibatsu. Mais en présence de ce jeune anglais, Michele se sentait redevenir de plus en plus indigène et le récit de l'affaire de Tibatsu se termina en même temps que retombait la tension nerveuse du narrateur par un déluge de pleurs convulsifs. Il s'en voulait d'avoir tué un homme, avait honte de ne pas retrouver l'état d'exaltation qu'il avait ressenti la nuit durant et éprouvait un dépit enfantin à sentir que sa langue se refusait à faire valoir ses grands exploits. C'était la disparition définitive de la dernière goutte de sang blanc que Michele eut dans les veines. Mais il ne s'en doutait pas. L'anglais, lui, le comprit. Quand il eut bien lavé la tête aux gens de Tibatsu, quand il eut tenu avec le juge auxiliaire une conférence dont cet excellent fonctionnaire sortit tout vert, il trouva le temps nécessaire pour rédiger un rapport officiel décrivant la conduite de Michele. Ce rapport fut transmis à qui de droit par les voies réglementaires. Et Michele retrouva un poste à l'intérieur des terres avec le salaire impérial de 66 roupies par mois. Aussi épousa-t-il Miss Vetzis en grande pompe selon l'antique rituel. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de petites crews qui se vautrent tout autour de la véranda du bureau central du télégraphe. Mais, quand bien même on lui offrirait comme récompense l'ensemble des recettes du service public qu'il emploie, Michele ne pourrait jamais, au grand jamais, recommencer ce qu'il fit à Tibatsu pour se voir accorder la main de Miss Vetzis, la bonne d'enfant. Cela prouve une chose. Quand un homme accomplit une bonne besogne, hors de proportion avec son salaire, il y a, 7 fois sur 9, une femme derrière sa vertu. Les deux exceptions ne peuvent s'expliquer que par un coup de soleil.
Glossaire.
Henri Derosio, 1809-1931. D'origine métisse, publia à Calcutta plusieurs recueils de poèmes en anglais au début du XIXe siècle. Grand admirateur de Byron et proche par ses idées de certains libres penseurs, il fédéra autour de lui un groupe d'étudiants pour les inciter à s'affranchir du poids des traditions hindoues, tout en remettant en question certains aspects de la domination britannique. Exclu de l'université où il enseignait, il mourut du choléra à l'âge de 22 ans. Moharram, allusion aux festivités par lesquelles les chiites commémorent durant les 10 premiers jours de l'année musulmane le martyre des fils d'Ali. Ces festivités étaient associées en Inde à des débordements et des affrontements entre musulmans et hindous. Donnybrook, village aux alentours de Dublin, où eut lieu jusqu'en 1855 une foire célèbre pour des bagarres et des désordres récurrents.
Glossaire. Glossaire.